stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I stay it will be double. So you gotta let me know.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Écho des Jeunes. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. On va parler orientation et c'est un peu spécial aussi parce que c'est moi qui vous présente. D'habitude, c'est Juliette. On est toujours avec Juliette et Soraya. Et aujourd'hui, on interview des étudiantes de milieux différents, de milieux d'études différents. Miloane, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Nous, on va bien.
Très bien, et toi?
Oui, ça va, merci.
Et Lona, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Donc, on va commencer sans plus attendre.
Et oui, et puis je pense que pour commencer, c'est toujours bon de se présenter. Et du coup, je vous propose de parler un petit peu de vos parcours pour le moment, qui sont un peu différents, mais qui peuvent se rejoindre.
Du coup, je me permets de commencer. Je m'appelle Miloane. J'ai passé mon bac en 2024 au lycée Raoul Folreau. Et j'étais anciennement, comme vous, membre de l'Écho des Jeunes. Donc, c'est super cool déjà de revenir et de voir que ça perdure et que surtout vous kiffez faire ça. Et maintenant, du coup, je suis en deuxième année d'études à Sciences Po Paris. Et je me spécialise maintenant plutôt en économie et en finance de marché. Mais la spécialisation à Sciences Po, on y reviendra plus tard, ça vient beaucoup plus tard. Donc là, par exemple, je vais encore avoir des cours de droit économique, par exemple.
Et Lona?
Alors moi, je suis assez vieille par rapport à vous. J'ai 25 ans et j'ai passé mon bac en 2018, donc c'était même avant la réforme du bac, enfin bref. Et en gros, moi, j'ai fait une prépa BL qui est, entre guillemets, une prépa littéraire, mais pas vraiment. J'ai continué avec une troisième année de licence en économie, avec un master d'économie et de sociologie, et actuellement je suis en doctorat de sociologie.
Oh, très bien, de longues études, mais très très bien. Et ça se rejoint un peu, je pense, sur quelques matières avec les études de Miloane.
Oui, carrément.
Je pense que tu as dû faire peut-être un peu de droit ou...
Pas du tout, non, pas du tout. J'ai pas du tout fait de droit, c'était vraiment.
De l'histoire.
Moi, c'est éco-socio, ouais. De l'histoire.
Donc, au moins sur l'économie, alors.
C'est ça.
Alors, deuxième question. Sur la romantisation, on va dire, de l'indépendance que donnent les études sup. Donc on romantise souvent, très souvent, énormément l'indépendance que donnent les études supérieures. Est-ce que, on se doit d'être honnête, être étudiant c'est un peu complexe. Est-ce que vous avez dû faire à des obstacles pendant vos études ou à des baisses de morale ou à d'autres épreuves qui vous ont marqué?
Alors en fait, ça dépend, je pense, vraiment de où vous allez dans vos études, que ce soit en termes de situation géographique, parce que mine de rien, même si vous avez un peu cette indépendance, vous partez quand même assez loin de chez vous parfois. Et ça peut jouer énormément sur le moral, parce que vous avez un peu une vie à reconstruire. Oui. Donc d'un côté, il y a le côté très excitant de ça, que vous rencontrez directement à l'arrivée des études. Mais avec le temps, vous remarquez plusieurs choses qui sont, vous pouvez avoir un peu de la solitude, même dans une très grande ville avec beaucoup de gens. Donc c'est vrai qu'il y a ces questions d'adaptation-là à la ville. Et pour ma part, ce qui a été le plus dur, je pense, c'était de m'adapter aussi à l'école. Parce que, je le savais, Sciences Po, ça demande des exigences qui sont très différentes de celles du lycée et qui vous poussent tout le temps, entre guillemets, à dépasser un peu vos limites. Donc ça peut être très très cool, mais il faut aussi y être préparé mentalement. Et c'est vrai que cet aspect-là, même si on m'en avait parlé, pour moi, ça restait très flou parce que concrètement, je ne savais pas de quoi on me parlait. Et il y a aussi le fait qu'on arrive dans un milieu social totalement différent de celui que j'ai toujours connu. Pour ma part, je suis née à Nevers, j'ai fait toutes mes études à Nevers, de la maternelle en fait, au lycée, je n'ai jamais bougé de Nevers. Et donc, en fait, c'est se mélanger à d'autres personnes, même si elles ne sont pas forcément condescendantes par d'où vous venez. Il y a des codes, entre guillemets, très implicites que vous ne connaissez pas forcément, à comprendre des façons de parler et tout, que vous rencontrerez normalement beaucoup plus tard dans votre vie. Donc voilà, c'est ce genre de barrières qui, pour moi, étaient un peu les plus difficiles. Maintenant, forcément, les études sup, c'est quand même extrêmement bien parce que vous continuez de vous découvrir. Vous avez construit votre personnalité en fait au lycée. Et vraiment, je trouve que l'étude sup, c'est un bon moyen aussi de continuer cette construction de vous, mais surtout de l'approfondir, faire des allers-retours. Donc, ce sera difficile, mais c'est totalement faisable.
Et toi, Lona, tu pourrais un peu nous dire, et aussi de quelle région tu étais selon ton lycée? Est-ce que ça a été un changement d'être à Paris?
Oui, carrément, puisque du coup, moi, je viens aussi de la campagne, je viens de Franche-Comté, et je viens précisément d'un village de 300 habitants. Donc, le passage de ce petit village à Paris, ça a été assez déstabilisant. Je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que on atterrit dans un milieu qu'on connaît pas du tout, avec des codes sociaux qu'on n'a pas forcément, et ça peut être plus ou moins violent en fait hein, au début, honnêtement. Après, je pense quand même que je reste une personne privilégiée parce que quand on parle des études sup, faut aussi prendre en compte notre situation économique, etc. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui me soutenaient financièrement. J'ai pas eu besoin de travailler à côté de mes études, etc. Donc, forcément, je pense que je l'ai mieux vécu que beaucoup d'étudiants aujourd'hui.
Surtout que t'es passé par une prépa, donc c'est. Puis ouais. Même par rapport à Sciences Po, c'est pas possible de travailler à côté, j'imagine. C'est tellement exigeant.
C'est pas possible, en fait. Ouais. Et même, j'étais dans une licence où on avait quand même une trentaine d'heures de cours, ce qui n'est pas le cas de toutes les licences. C'était pareil en master, etc. Donc, ça aurait été compliqué, en fait, de travailler à côté de mes études. Moi, je n'ai pas eu à le faire. Donc, finalement, mes études se sont bien passées pour ça aussi. J'ai eu le temps aussi d'avoir des sociabilités, de me faire des amis, etc. Donc, franchement, c'était une chance. Et après, je suis d'accord pour dire qu'au début, on peut ressentir beaucoup de solitude quand on n'a pas l'habitude de se retrouver, d'être aussi indépendant. Ça allait. Je pense que j'ai été très chanceuse par rapport à tout ça quand même.
Et du coup, comme vous venez tous de milieux ruraux un peu, que ce soit de la Bourgogne ou de la Franche-Comté, est-ce que vous avez un peu subi de l'autocensure parce que ça augmente entre les jeunes? Vous n'êtes pas un peu aussi autocensuré? Ça a été dur aussi de la trajectoire à la Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France. Est-ce que ça a eu un peu un choc brutal?
En fait, c'est très très particulier parce que quand on vient entre guillemets de la campagne, je dirais pas que c'est facile, mais c'est plus simple d'être très bon. Et après, on arrive dans un milieu qui est très très exigeant et qui a du coup des exigences différentes de ce qu'on connaissait avant. Et de ce point de vue-là, ça fait qu'on rencontre des élèves qui sont aussi extrêmement bons, entre guillemets, comme les gens, enfin comme nous, qu'on était au lycée. Et le fait de rencontrer plein de gens extrêmement bons, il y a aussi ce côté, oui, ça vous aide à être encore meilleur, mais il y a aussi ce côté où on se dit, ah, ok, il y a des gens qui sont vraiment hyper forts, et c'est vrai que d'un autre côté, vous vous dites, ah, yeah. Donc moi, je pêche sur plein d'aspects, et donc ça vous permet de vous améliorer. Moi, je pense que j'ai commencé un peu à m'auto-censurer. Après mon premier semestre à Sciences Po, parce que ça a été assez violent, je me suis limitée dans beaucoup de choses, que ce soit les activités extrascolaires aussi, je privilégiais vraiment l'école, ce qui n'était pas forcément bon, et je ne vous le conseille pas non plus, parce que votre vie ne tournera jamais que autour de vos études, ça reste une grosse partie, mais ce n'est pas la seule chose qui compte.
C'est bien de le souligner, parce que souvent, nos professeurs, ils vont nous vraiment insister sur l'aspect scolaire, ils vont mettre beaucoup de pression dessus, mais en fait, on peut passer à côté de toute une partie de notre vie si on...
En fait, je trouve que pour moi, les études, c'est vraiment le moment où vous devez tester énormément de choses et pas rester, entre guillemets, dans ce que vous connaissez déjà. Pour ma part, je suis rentrée à Sciences Po avec l'idée de faire donc du droit et des relations internationales. Et en fait, maintenant, je fais tout à fait l'inverse, je fais de l'économie. Alors que quand j'étais au lycée, pour moi, c'était impensable que je fasse un jour de l'économie. Je ne voulais même pas avoir la spécialité SES, pour vous dire. Donc c'est assez particulier. Mais c'est des choses à retravailler, etc. Et ça participe à beaucoup de choses pour votre propre personne. Donc ça reste très cool.
Et toi, Lona, est-ce que tu as connu un petit peu d'autocensure, de syndrome de l'imposteur peut-être?
Oui, totalement. Mais en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'autocensure et en même temps le manque d'information, entre guillemets. Dans le sens où... honnêtement, tous les ans, pendant mes études, maintenant ça va mieux parce que... Là, j'ai quand même, encore une fois, une position privilégiée, je suis en doctorat. Mais jusqu'à la fin de mon master, tous les ans, je me disais, peut-être que je pourrais jamais dépasser ma condition et je suis pas faite pour ça. Enfin, parce que mes parents ont pas le bac, que je viens de la campagne et je suis un peu, j'ai débarqué comme ça en ville. Je me sentais pas forcément légitime et pas forcément à ma place. Et je pense que c'est dur aussi quand on vient de la campagne, justement, à cause du manque d'informations, dans le sens où on n'a pas forcément, les connaissances vis-à-vis du système scolaire et du monde professionnel et tout, que peuvent avoir les personnes qui ont grandi en ville et qui ont eu accès aux bonnes écoles dès le début, etc. Donc c'est même pas tant de l'autocensure que un manque de connaissances du système qui fait qu'on va pas forcément avoir même l'idée d'aller chercher, d'avoir des objectifs autres que ceux auxquels on a accès. Enfin, je sais pas si c'est clair.
Oui, si, je vois totalement. Ouais. Et ça, c'est nickel parce que ça me permet de rebondir directement. Parce que la prochaine question, c'était pour savoir si vous aviez, maintenant avec un peu de recul, en fait, si vous aviez des conseils à donner aux lycéens pour mieux s'informer. Parce que je suis assez d'accord, il y a de plus en plus de tissus associatifs pour s'informer, etc. Mais comment est-ce qu'on arrive à y accéder? Et je voulais savoir si vous aviez quelques conseils.
Pour ma part, je vous dirais d'assister à des salons dès la seconde, parce que vous découvrez plein de formations. Pour ma part, je sais qu'il y en a qui ont découvert le système du coup des classes préparatoires que a suivi Lona, par exemple. Ils l'ont découvert qu'en terminale à 2 semaines de Parcoursup, en fait, de la clôture de Parcoursup. Donc, ce qui laisse très très peu de temps pour se projeter dans une formation qui est super exigeante et qui laisse vraiment peu de temps à l'espace personnel, je dirais. Après, je parle pas parce que je ne connais pas, mais peut-être que Lona pourra revenir dessus sur la prépa. Mais participer à des salons, je pense que c'est vraiment intéressant parce que vous découvrez plein de formations. Si vous avez les possibilités, c'est de faire des portes ouvertes. Moi, j'ai commencé en première, parce que en seconde, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais quitte à faire les portes ouvertes de la fac d'à côté, ça vous donne déjà un petit aperçu de comment fonctionne une fac. Un petit peu, à peu près. On ne va pas vous dire où sont les casiers, etc. Mais c'est l'idée. Et rencontrer aussi, discuter. Parfois, vous avez les adresses mail de certaines écoles, de certaines facs. N'hésitez pas à leur poser des questions aussi, ça aide de fou. Je sais que maintenant, les réseaux sociaux, il y a plusieurs comptes Instagram qui donnent plein de tips, que ce soit pour Parcoursup ou des tips étudiants, mais je sais que ça aide beaucoup. Et parfois, il faut juste être super curieux. C'est-à-dire que c'est votre vie, entre guillemets, de plus tard. Donc, par exemple, la plateforme Parcoursup, elle est super bien faite pour ça. Vous pouvez choisir une formation, regarder tous les détails, avoir le site internet. Moi, je vous vraiment conseille fortement de regarder ces sites internet et d'aller zioter partout les rubriques, qu'est-ce que c'est la vie étudiante dans cette école, etc. Pour moi, ce serait mes petits conseils.
C'est déjà très très bien comme conseil. Alors toi, Lona, je ne sais pas si Parcoursup existait.
Si c'est toi la première génération de Parcoursup, si je me trompe
première
pas.
Première génération.
Tout à fait, on est la première génération en 2018. Du coup, je pense que la plateforme a beaucoup changé depuis ce moment-là. Je vois par exemple, avec mon frère et ma sœur, justement, j'ai l'impression que c'est un peu plus clair sur le site, parce que nous, c'est un peu brouillon, je vous avoue, Parcoursup. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression qu'on peut pas mal se renseigner quand même sur les filières et tout en amont via la plateforme, donc faut pas hésiter. Et je suis d'accord, en vrai, maintenant les réseaux sociaux, c'est quand même assez utile en fait pour avoir un peu des retours d'expérience sur certaines filières, etc. Et moi, j'avais fait des portes ouvertes aussi à l'époque. C'est important de se poser des questions, surtout assez tôt, parce que je sais que moi, par exemple, la prépa dans laquelle je suis allée, je l'ai découverte honnêtement quelques mois avant Parcoursup, justement. Donc
Est-ce que tu veux nous parler, justement, comme Miloane a l'air de renvoyer un peu la balle sur la prépa, et est-ce que tu veux nous parler un petit peu de comment s'organiser les cours à la prépa, parce que je pense que ça peut faire très très peur aux élèves, honnêtement.
Ah oui. Alors déjà, il y a plusieurs types de prépa, on va dire. Il y a des prépas qui sont un petit peu partielles, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens vont avoir des cours à la fac et des cours en lycée dans le cadre de leur prépa, on va dire. Moi, c'était pas ça, c'était vraiment une prépa à temps plein, entre guillemets, où j'avais des cours qu'en lycée. Et pareil, il y a plusieurs types de prépas. Il y a des prépas littéraires, des prépas économiques et sociales, on va dire, pour intégrer les écoles de commerce, et des prépas scientifiques. Donc moi, j'étais dans une prépa entre gros guillemets littéraire, sauf que j'avais aussi des SES, des maths, de l'histoire-géo, etc. Enfin, j'avais vraiment pas mal de matières. Et comment se passent les cours? On a une trentaine d'heures de cours. C'est un peu comme le lycée, en fait, la prépa. c'est un peu comme le lycée, en plus exigeant. On a une trentaine d'heures de cours et toutes les semaines, vous avez des oraux à passer dans des matières, ça s'appelle des colles, dans lesquelles vous êtes interrogé sur des sujets divers et variés selon vos cours. Et ça vous prépare aux oraux des concours, en fait, soit des écoles normales supérieures, soit des écoles de commerce. Et tous les week-ends, vous avez aussi des DST, à chaque fois dans une matière différente, également pour vous préparer au concours.
Ok.
Et les concours qui sont passés du coup à la fin des 2 ans ou 3 ans, si jamais vous voulez refaire encore un an, de la prépa.
Ok, donc c'est très, très encadré finalement la prépa.
Ouais, c'est hyper encadré. C'est un peu comme le lycée en fait, c'est à échelle humaine on va dire, puisqu'on est à peu près une trentaine, enfin nous on était un peu plus, peut-être 40, mais... On va dire une trentaine d'élèves, d'étudiants, avec des profs dans chaque matière, des profs qu'on voit très régulièrement parce que on passe d'école avec eux. Donc, je comprends que ça fasse peur parce que honnêtement, c'est dur psychologiquement, c'est fatigant la prépa. Mais après, je pense qu'on a tendance aussi à minimiser l'investissement qu'on doit avoir à la fac par rapport à la prépa. Honnêtement, moi, ma L3 d'économie, c'était pas plus reposant que la prépa. Mais par contre, j'étais moins soutenue par les profs.
Okay.
Et j'avais moins d'interactions sociales parce que c'était plus à l'échelle d'une classe. Vous voyez, donc je pense que ouais, toutes les filières ont leur avantage ou leur inconvénient, mais il faut pas minimiser non plus le travail à donner, on va dire, quand on est à la fac.
Ok, je vois.
Et du coup, ta prépa, comme on t'a parlé un peu des études, comment c'était aussi en dehors, je veux dire, t'avais quand même une possibilité de faire des activités parce qu'on a un peu cette peur de prépa, de rester que enfermé sur ses bouquins.
Honnêtement, non. Honnêtement, j'ai pas fait beaucoup d'activités pendant 10 ans. Tout simplement parce que du coup, j'avais cours du lundi matin jusqu'au vendredi soir. Après, aussi, ça... C'est un truc spécifique à la prépa BL, enfin aux prépas littéraires, mais nos DST pouvaient durer jusqu'à 6 heures en fait. Ça veut dire que le samedi, on arrivait à 8 heures, on repartait à 14 heures. Après, il reste un jour et demi pour travailler et dormir. Donc forcément, peu d'activité, honnêtement.
Et toutes les deux, la question se porte sur toutes les deux. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous arrivez à faire une place aux activités comme Ilohan, tu nous as dit que tu avais eu un peu de mal pendant ta première année de Sciences Po?
En fait, à Sciences Po, je pensais que je pouvais grave avoir le même rythme que j'avais au lycée. Donc, c'est-à-dire qu'au lycée, je faisais beaucoup de choses, mine de rien, à côté du lycée, parce qu'en fait, j'en avais le temps. Et c'est pas du tout la même charge que ce... En fait, je pense que, comme le disait en fait Lona précédemment, que vous fassiez en fait une prépa, une université, une grande école, vous n'allez pas du tout avoir la même charge et les mêmes choses qui vont être attendues de vous en termes de travail. Et du coup, cette adaptation-là, moi, je ne l'ai pas anticipée. C'est-à-dire que je me suis inscrite dans des équipes de sport pour représenter mon école dans les compétitions. Et en fait, ça me demandait un engagement en plus. Je me suis engagée dans d'autres assos, etc. Donc ça faisait qu'au final, ça faisait un tout qui était beaucoup trop lourd pour un premier semestre en études supérieures. Donc maintenant... Je fais exactement la même chose, mais c'est beaucoup plus simple parce que j'ai une année d'expérience, parce que j'ai appris à me connaître. Et j'ai appris que je ne savais pas forcément extrêmement bien travailler non plus, contrairement à ce que je pensais au lycée. Je pensais que je travaillais très bien, que j'avais une bonne organisation. Mais en fait, pas tellement, pour être honnête, mais ça se travaille. Et oui, donc maintenant, je suis toujours dans une autre équipe de sport aussi à Sciences Po, j'ai changé. Du coup, je suis aussi à l'association de l'ANIA aux grandes écoles, où je suis vice-présidente, co-vice-présidente avec eux, c'est également Zoé Moussi. Coucou Zoé, si tu passes par là. Donc en fait, vous avez le temps, mais il faut aussi prendre sur vous, entre guillemets, pour vous créer ce temps, et pas laisser passer tout le temps les études avant. Parce que moi, en période de partiel, je n'allais jamais au sport, sauf que je sais que j'en ai énormément besoin pour me vider. Et donc, ça m'a pas plus aidée pour mes révisions parce que j'étais pas plus productive. Donc, moi, je vous encourage vraiment à garder de façon modérée, bien entendu, vos activités, en découvrir des nouvelles. Parce que du coup, moi, j'ai changé de sport. Et,
tu fais quoi maintenant?
Et maintenant, je fais du rugby.
Et elle faisait du hand avant.
Ouais, exactement.
Et du volley aussi à un moment?
Oui, aussi.
Ah.
Oui. En fait, j'en ai fait. Donc, je vous conseille vraiment de garder vos activités, peut-être en enlever quelques-unes, mais c'est totalement faisable. Si on s'organise bien et qu'on se laisse du temps, surtout pour soi, par rapport à ses études, c'est ce fait, totalement.
Et du coup, Lona, est-ce que tu as des petites activités qui te permettent de mener de front vie personnelle et vie étudiante, on va dire?
Moi, je suis d'accord pour dire que, ouais, justement, il faut savoir se laisser le temps, en fait. Et c'est pas facile à faire au début parce que on a le stress des études, on a envie de réussir, c'est difficile de s'organiser quand on n'a pas l'habitude. Mais je sais que en prépa, justement, les seuls moments où j'avais un peu des activités à moi, c'est quand j'allais courir. Et je pense que ça me faisait beaucoup de bien, en fait, même si je culpabilisais au début en me disant « mais là, je perds du temps, j'aurais dû retourner chez moi travailler, etc. » C'était quand même hyper important pour ma santé mentale. Et pendant mes études, je me suis toujours laissé quand même pas mal de temps pour lire, pour même juste regarder des séries, en fait. Ça fait beaucoup, je trouve, sur le moral. Et faut pas du tout laisser tomber ça, en fait.
Et si je peux rajouter, il ne faut surtout pas culpabiliser de le faire aussi. Parce que forcément, d'un côté, vous dites « Oui, j'ai mes cours à faire, je perds du temps, c'est pas bien ce que tu fais, nanana. » Mais aussi, il faut vous dire que vous avez besoin de ce temps parce que c'est pas du tout la même chose qu'au lycée. Au lycée, si vous regardez pendant 4 heures votre série alors que vous avez un DS le lendemain, d'accord, en études sup, c'est différent. On a un peu moins d'heures de cours quand même, sauf en prépa, où là, c'est plus compliqué. Ils ont beaucoup d'heures de cours. Faut vraiment que vous pensiez que le temps que vous passez à vous reposer est tout autant utile que le temps que vous passez à travailler. Et je pense que je ne dirai rien de plus vrai sur ça. En tout cas.
Avant de continuer, on va parler des préjugés que vous aviez, que ce soit en prépa ou à Sciences Po. Est-ce que il vous est arrivé de vous rendre compte que des préjugés que vous aviez sur les écoles étaient faux ou l'inverse ?
Je sais que Sciences Po, moi j'en avais plus trop des préjugés parce que je m'étais vraiment beaucoup renseignée, parce que depuis la seconde je savais que je voulais aller à Sciences Po, donc ça m'aidait. Mais c'est vrai que j'avais pas tellement de préjugés, mais j'idéalisais énormément en fait ma vie à Sciences Po. Et du coup c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit que en fait c'était pas tout rose. Mais des préjugés, je sais que j'en entends beaucoup quand les gens s'adressent à moi sur mon école. Ils me demandent « Oui, alors, est-ce que c'est une école de gauche ?» Et je suis en mode « Bonjour !» Non, pas forcément, pas forcément. Dans le sens où il y a une très grande représentation politique, où il y a un peu de tout. Parfois, les cours ne sont pas forcément orientés de gauche non plus. On a aussi des cours, parfois, et ça peut être surprenant, et qui sont orientés plutôt de droite. Voilà, ça dépend aussi vraiment du corps d'enseignant que vous avez, je pense. Et y a un truc auquel je ne m'attendais pas, peut-être, c'était l'ambiance. Je me suis dit que j'allais retrouver ce que je connaissais au lycée. Pas du tout. Du coup, non, c'est très, très différent. Mais voilà, pour moi, je n'avais pas tellement de préjugés. Donc bon.
Et toi, Lona?
J'avais pas forcément de préjugés sur la fac, je pense. Au début, j'en avais plus sur la prépa, où je me disais que, je pense les préjugés qu'on a tous sur la prépa, que c'est vraiment horrible, que les profs sont terribles, que la compétition à l'intérieur des classes, elle est aussi catastrophique et tout. Ça, je pense que ça, honnêtement, je vais pas dire que c'est faux, mais ça dépend vraiment de... c'est très personne dépendante, en fait. Dans le sens où, par exemple, en première année, on avait des vieux profs qui avaient l'impression que c'était important de nous saquer pour qu'on progresse. Donc, franchement, compliqué. Et je pense que à ce moment-là, je me disais, c'est vrai, du coup, si on est sur la prépa, on cherche pas forcément à nous encourager, etc. Et au contraire, quand ces profs sont partis à la retraite en deuxième année et qu'on a eu de nouveaux profs, là, c'était totalement l'inverse, en fait. On avait vraiment... une ambiance de classe qui était hyper détendue, avec des vraies discussions. Je pense que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup pu échanger avec les profs, et ils nous soutenaient beaucoup, ils nous encourageaient beaucoup, et c'était incroyable. Et du coup, ça permettait aussi de créer une ambiance de classe qui était totalement différente de la première année, où je pense qu'on était tous déprimés, quoi. Et en deuxième année, justement, il y a eu, pareil, un peu un truc dans la classe d'interaction qui était beaucoup plus saine, d'entraide, etc. Donc je pense que ça dépend vraiment, et malheureusement on ne peut pas le savoir en avance, quoi, mais ça dépend vraiment des profs sur lesquels on tombe et de l'éthique de l'établissement, entre guillemets.
D'accord, et pour l'instant, je vais vous remercier pour le début de ces questions. On va faire une petite pause musicale avant de reprendre sur le son Vice O de Kate Ranada.
Me no lie, me no lie. Got lost in her eyes. night. Put my phone on silent, and I don't know why. No, I couldn't leave her. Should've said bye, Felicia. Must've been the tequila. I wish you had amnesia. Come, come, what I did can't be undone. Kiss and chase, baby, run, run. Don't give my love to no one.
Bad belly when she get. You gon' try, try, she not forget. No, no forgiveness, so to the left, to the left. Wanna take a real life reset. She said, I don't mean no effect, oh, and I say, no vexo. No vexo, my baby don't vexo. My baby don't vexo, and I say, no vexo. Don't vexo, my baby don't vexo.
I just wanna get behind you on the dance floor. Then I take you back to the back of the dance club. Handsome, always call me handsome. Then I hand rub, throw tantrums. If you leave me, that's it, Lord. No lie, when I ride on a beat, I just try to supply, gonna be good. Thank you, I don't even care much, I'm indoor. Rip good, but I think I'm an asshole. Fuck me good, then I fuck so long that the moon and the sun swoopers, this shit is sick, ho. And I roll it over, I call it a pick, bro. I'm on top, I don't mind if we switch roles. Next morning when we leave, you can switch clothes. Pissed off, you ain't get my number when I hit, though. Real nice with the words, but I mean with a nice stroke. And I kinda bite, though, aight, ho.
Bad belly when she get. You gon' try, try, she no forget. No, no forgiveness, so to the left, to the left. Wanna take a real life reset. She said, I don't mean no effect, oh, and I say, no vexo. No vexo, my baby don't vexo. My baby don't vexo. And I say no vexo. No vexo, my baby don't vexo. Don't vexo.
Alors, on se retrouve pour continuer cette petite interview de l'écho des jeunes. Alors, cette fois, c'est une question ciblée pour Lona. Le mot allocation doctorale fait très peur. Est-ce que tu peux bien nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi as-tu voulu continuer après le niveau master?
Ok. Alors, allocation doctorale, c'est pas forcément le doctorat en général. Enfin, je sais pas si tu voulais dire parler du doctorat de manière générale ou des allocations doctorales.
Ben, explique-nous la différence entre les deux, peut-être la distinction, ouais, ça parce que ça mal. Nous paraît assez loin.
Parce que la majorité des doctorants n'ont pas d'allocation doctorale, en fait. C'est pour ça que je me permets de préciser. En fait, l'allocation doctorale, c'est le fait d'être financé pendant, en général, 3 ans, pendant la durée de son doctorat, pour faire son étude, enfin, sa thèse, pour écrire sa thèse, en gros. Et les financements, ils viennent de plusieurs acteurs. Ça peut être les universités, ça peut être des institutions publiques, enfin des administrations publiques, ou alors des entreprises privées qui ont un pôle recherche en fait en leur sein. Et la majorité des doctorants ne sont pas sous contrat en fait avec une institution. Ils n'ont pas d'allocation doctorale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés pour écrire leur thèse en fait. Donc moi c'est pas, enfin c'est justement mon cas. J'ai une allocation doctorale, je suis sous contrat avec l'université Paris 1. C'est un contrat en CDD de 3 ans pendant lequel on me laisse un peu carte blanche pour écrire ma thèse et faire ma recherche comme il se doit. Et pourquoi j'ai voulu continuer? Déjà honnêtement j'aurais pas continué en doctorat si j'avais pas été sous contrat parce que je pense que c'est très très dur en fait. De devoir écrire une thèse quand on n'est pas financé et que parce que c'est dur de travailler à côté quoi, de trouver un travail tout en écrivant une thèse. Et si j'ai voulu continuer en doctorat, c'est parce que en fait j'avais déjà un sujet de recherche que j'avais commencé à exploiter pendant mon master avec un premier mémoire et un deuxième mémoire en M1 et en M2 et que on m'a offert l'opportunité en fait de continuer d'approfondir, on va dire, ces sujets en doctorat. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, ça serait intéressant, etc.
Alors, t'es pas obligé, mais est-ce que tu veux nous partager un peu le sujet de ta thèse? Oui. Mais t'es pas obligé de spoiler. Hein.
Alors, moi, le sujet de ma thèse, c'est les soignantes frontalières, c'est-à-dire les soignantes qui habitent en France et qui partent travailler à l'étranger et qui font les déplacements quotidiennement ou quasi quotidiennement. et je travaille sur la frontière franco-suisse. Okay. Donc voilà. Et en fait, je sais pas, vous voulez que je parle de comment j'ai eu mon allocation, etc.
Bah... Je sais pas, est-ce que, comment en fait elle se passe ta thèse? Est-ce que tu fais des enquêtes de terrain à la frontière franco-suisse par exemple?
Ouais, carrément. En fait, j'ai fait, du coup, j'ai fait une grande enquête de terrain où je faisais des entretiens avec des soignantes, enfin des soignantes et des soignants qui travaillaient en France ou en Suisse. Et du coup, l'objectif de ma thèse, c'est, enfin, j'ai une problématique. En gros, moi, je me demande si le fait de gagner plus d'argent en Suisse, ça amène forcément à changer de classe sociale.
Okay.
Et du coup, l'objectif, c'est qu'avec cette enquête de terrain, j'ai amassé assez de matériaux pour répondre, entre guillemets, à cette question. Et donc, j'avais 3 ans sous contrat pour le faire et je compte rédiger encore ma thèse pendant 1 an après la fin de mon contrat parce que, bon, honnêtement, c'est impossible de le faire en 3 ans. Enfin, personne ne fait sa thèse en 3 ans. En sociologie, c'est pas possible, quoi. Et du coup, voilà.
Okay. Et ben, merci beaucoup.
Maintenant, une question plus ciblée sur toi, Miloane. On ne t'oublie pas, ne t'inquiète pas, Lona. C'est sur tes engagements au sein de la Nièvre aux grandes écoles qui fait vraiment un lien entre notre ruralité et les grandes ambitions. Mmh. Est-ce que tu voudrais nous expliquer bien le rôle un peu de l'association, ton rôle à toi, tes motivations aussi d'être rentrée dans la Nièvre aux grandes écoles?
Alors, je dirais que tout commence quand je suis en première. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des salons. En première, j'ai fait des salons et j'ai rencontré en fait la présidente de notre association, Flavie Darcy. Coucou Flavie, si tu passes par là encore une fois.
Je me permets de rappeler brièvement, si jamais vous les retrouvez, on a interviewé Flavie sur Bac FM l'année dernière, si vous voulez retrouver l'émission.
Je ne sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais grosso modo, il y avait le stand de la Nièvre aux grandes écoles, du coup, qui présentait leur association, qui font en fait un mentorat. Je vais revenir dessus un peu plus tard, mais l'idée étant que je me suis inscrite à ce mentorat et je me suis retrouvée mentorée par Flavie Darcy. Ce mentorat, en fait, il consistait en quoi ? Il consistait à m'accompagner dans mon projet d'études, c'est-à-dire m'accompagner quand je vais réfléchir, par exemple, aux écrits de motivation, ou m'accompagner également pour savoir si, en fait, la prépa, ça correspondait à ma personnalité, ce que je devais le mettre sur Parcoursup, etc. Donc c'était beaucoup d'aide variée. C'était également de l'aide académique dans le sens où Flavie, du coup, m'a aidée en première à préparer le bac de français. Elle m'a fait réviser tous mes textes. Voilà, parce qu'on n'avait pas encore la perspective de Parcoursup quand j'étais en première. Ça, on l'a travaillé durant donc toute ma terminale. Ce qui fait que suite à ça, en première année d'études, j'ai fait le choix de ne pas m'investir dans l'asso. Donc j'étais quand même membre, j'étais d'ailleurs au sein du pôle bourse, mais très honnêtement, je n'ai pas énormément contribué aux tâches de l'association. C'est plus donc, en fait en parallèle, j'ai fait un stage civique à Sciences Po, donc qui est une obligation de scolarité, et j'ai souhaité m'engager pour l'égalité des chances, parce que oui, forcément je viens d'un milieu rural, et il faut aussi comprendre que venir d'un milieu rural, même si ça peut être un atout sur certains aspects, bah, parfois c'est aussi un désavantage. Et donc moi je voulais lutter et contribuer en fait à la lutte contre ces inégalités des chances. Et ce stage civique demandait également de poursuivre en fait en deuxième année notre engagement. Et c'est ce que j'ai fait en rejoignant du coup Flavie au poste de vice-présidente, enfin en co-vice-présidente, pour continuer en fait pour continuer à travailler sur l'égalité des chances. Donc nous, à De la Nièvre aux grandes écoles, du coup, ce qu'on fait pour lutter contre l'autocensure, le manque d'information, du coup, que mentionnait tout à l'heure Lona, c'est qu'on va, par exemple, intervenir au sein des lycées. Maintenant, on est en train de l'étendre au collège pour commencer plus tôt, parce qu'on se rend compte, en fait, l'orientation, ça commence à un très jeune âge. Vous n'aurez pas, en fait, la même suite de parcours si on vous oriente plutôt vers un bac professionnel, un bac technologique ou encore un bac général. Parce que, mine de rien, la passerelle entre les trois est assez compliquée une fois que vous êtes dans ces cursus-là. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on met en place le dispositif de mentorat, donc que moi j'ai bénéficié. Et là, c'est juste, on met un élève qui souhaite s'orienter vers un domaine en particulier. Admettons, je ne sais pas, que vous vouliez vous orienter dans le droit, l'économie ou la sociologie. Ben, on va vous mettre en relation avec un élève qui est soit actuellement en études en droit, en sociologie, ou, etc. Ou avec une personne qui a déjà fini ses études, pour vous accompagner en fait, dans la définition de votre parcours et ainsi de suite. En fait, on a encore d'autres dispositifs. Donc, il y a le dispositif de bourse, à savoir qu'on cherche encore des donations pour les bourses, pour débloquer de nouvelles bourses. Donc, ces bourses-là, on les donne, elles sont faites en complément donc, de la bourse CROUS. Donc, c'est-à-dire également que si vous n'avez pas la bourse CROUS, vous êtes totalement éligible à la bourse de DNGE qui s'élève à 6000 euros. Et donc, cet argent-là, elle est destinée entièrement à vos études. Et enfin, on a également le dispositif du concours d'éloquence. Donc, le concours d'éloquence, on a remarqué que, en fait, sur Parcoursup, il y avait toujours la petite rubrique centre d'intérêt ou expérience. Et en fait, bah, parfois, je suis désolée, mais moi, expérience, j'étais en mode, je suis censée dire quoi là-dedans ? Centre d'intérêt, j'en ai plein, mais lesquels seraient intéressants pour l'université ? Du coup, l'idée du concours d'éloquence, c'est de vous aider aussi. D'une part à remplir entre guillemets ces petites rubriques, mais aussi de développer des compétences qui seront valorisées et valorisables toute votre vie, que ce soit pour votre bac, votre grand oral, que ce soit ensuite pour vos présentations orales en études sup, ou encore bah, en fait, pendant des entretiens typiquement. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce concours d'éloquence, et cette année on a également mis en place une formation à l'éloquence, et donc le tout est totalement gratuit. Voilà, donc c'est ça un peu le rôle de la DNGE. Donc moi, après, en tant que co-vice-présidente, c'est m'assurer que tout le monde fait bien son travail, en temps et en heure, pour être sûr qu'on, que tout se passe bien. Et donc, bah, de promouvoir, par exemple, dans des moments comme ça, l'égalité des chances, d'en parler autour de moi, de représenter l'association avec la présidente et la deuxième co-vice-présidente. Voilà, donc c'est mes petites tâches sur lesquelles je passe du temps, mais c'est avec plaisir de le faire.
Est-ce que tu pourrais nous laisser du coup les petits contacts de la DNGE pour qu'on oui. puisse les contacter ?
Alors, nous avons plusieurs contacts pour que vous puissiez nous retrouver. Pour les jeunes, si je puis me permettre entre guillemets, on a DNGE 58 sur Instagram. On réfléchit en ce moment à se mettre sur TikTok, mais c'est un travail en interne qu'il faut voir, donc je ne peux pas spoiler. Et on a également notre adresse mail, donc c'est nievre.dtge@gmail.com. Si je ne dis pas de bêtises, je ne les connais pas par cœur. Je vais vous redire ça.
Hein. Bah, c'est ça la vice-présidente.
Ouais. Non, c'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux, vraiment. En plus, j'ai pas de réseau. Au secours. Non, mais normalement, on a un LinkedIn aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà. Mais normalement, oui, j'ai l'adresse mail, c'est monnieve.dtge@gmail.com. Vu que j'envoie des mails tout le temps sur cette adresse mail, je pense que c'est normalement c'est ça.
Et toi, Lona, comme elle avait parlé de mentorat, j'ai un peu vu aussi que tu étais dans une association où tu faisais du mentorat. Est-ce que tu pourrais nous parler de cet engagement ?
Oui, je ne savais même pas que tu savais.
Et oui, je t'ai vu passer sur TikTok.
Et c'est tout, hein.
C'est tout, Soraya. Et c'est Soraya.
Du coup, je suis dans une association qui s'appelle l'AFEV, c'est A-F-E-V, qui est une association qui est présente dans pas mal de villes en France. Donc, si jamais renseignez-vous, je pense que dans toutes les grandes villes, il y a une antenne de l'AFEV. Et c'est une association dans laquelle donc on fait du mentorat auprès d'enfants qui sont, alors pas totalement en décrochage scolaire, mais qui commencent à perdre un peu leur intérêt envers l'école. Et en gros, le but, c'est de les ramener vers l'apprentissage scolaire, mais pas que aussi. Enfin, vers des découvertes culturelles, etc. Donc, ce n'est pas des enfants qui n'aiment plus du tout l'école. En général, c'est juste des enfants qui ont un peu des difficultés scolaires. Et le but, c'est de les remotiver un petit peu, en fait, à apprendre, quoi, à l'apprentissage. Et en gros, on appelle ça mentorat parce que ce n'est pas forcément que du soutien scolaire. On ne va pas seulement faire des devoirs avec eux, etc. Le but, c'est aussi de leur faire découvrir des activités culturelles selon leur centre d'intérêt. Donc, des visites de musées, des balades, enfin, ça peut être un peu tout et n'importe quoi selon nos intérêts aussi à nous. Et donc, en fait, l'association va nous désigner un enfant avec lequel on va former un binôme. Ces binômes, ils sont créés en fonction de des intérêts de l'enfant et de nos intérêts à nous. Donc ça, c'est cool. En général, on se retrouve pas avec une personne qui aime pas du tout les mêmes choses que nous. Par exemple, moi, je suis en binôme du coup avec une ado qui a 13 ans, qui s'appelle Artana, et qui aime beaucoup l'art, l'histoire, etc.
Comme un peu toi, j'imagine.
Ouais, comme moi, totalement. On aime à peu près les mêmes choses en vrai, donc c'est cool. Et on se voit ben, minimum 2 heures par semaine pour, dans le cadre de ce mentorat en fait.
On vous remercie vraiment de promouvoir l'égalité des chances parce que c'est quelque chose qui est ultra important. Et en fait, je pense que nous, en tant qu'élèves, plus on grandit...
Même nous, en tant qu'élèves, dans l'endroit où on est né, on étudie, je pense que c'est d'autant plus important, l'égalité des chances. C'est quelque chose qui nous importe beaucoup.
Et avoir des exemples de parcours de réussite de personnes qui viennent de la ruralité et qui essayent en fait de continuer à transmettre ces parcours tout en reconnaissant les défauts, les failles qu'il peut y avoir, c'est ultra important. Ça nous permet aussi de nous d'envisager plus grand et de pas se limiter dans nos ambitions.
Donc pour finir, donc je suppose que vous avez des projets, des rêves pour la suite. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Du coup, moi, je suis en deuxième année d'études, ce qui fait qu'en fait, à Sciences Po, on a un peu l'obligation. En fait, c'est pas on a un peu, on a totalement l'obligation. On est interdit de rester en France, en fait, en troisième année d'études, ce qui fait qu'on est obligé donc de partir voguer vers d'autres horizons, si je puis dire. Et donc, dans mon cas, j'ai choisi de partir à la découverte de l'Asie. J'ai choisi, donc, on a 6 vœux à faire, et j'ai choisi surtout Hong Kong. Parce que donc au lycée je faisais espagnol, j'ai abandonné l'espagnol donc pour faire du mandarin maintenant. Et même si Hong Kong donc on y parle cantonais, je me suis dit c'est à proximité de la frontière chinoise donc je pourrais pratiquer la langue là-bas. Et j'ai mis également Kuala Lumpur donc c'est la capitale de la Malaisie comme vœu. Donc ouais voilà, l'idée ce serait surtout de découvrir et d'approfondir mes cours d'économie, de finance, de droit, etc. là-bas. Et dans un autre contexte aussi, parce que pour l'instant j'ai une vision académique qui est très eurocentrée et très occidentale. Et donc le but pour moi c'était surtout de découvrir d'autres façons de penser, d'autres façons de travailler aussi. Et de m'enrichir à ce niveau-là. Et donc mon vœu dans tous les cas ce n'était pas de rester en Europe ou dans un endroit trop, entre guillemets, occidentalisé, où il n'y a pas d'autres cultures qui s'y mélangent. Donc voilà. Et après, au niveau master, je réfléchis beaucoup, forcément, parce que ben, là, ça se concrétise encore un peu plus. Ouais. Parce que vous verrez, du coup, à l'université, c'est assez perplexe. Enfin, ça vous met un petit peu en difficulté, dans le sens où vous êtes à la fois... dans une ambiance encore mi-académique, mi-professionnalisante, donc c'est assez compliqué aussi à ce niveau-là, mais voilà. Donc pour le master, soit je vais faire un master en finance, bon, je suis encore en train d'y réfléchir, soit je vais faire un master en droit économique, et à Sciences Po, il y a un double master, donc ça veut dire que vous faites votre master en 3 ans, et vous faites les 2 masters en même temps, et donc du coup, je vais peut-être joindre droit économique et finance en même temps pour avoir les 2 aspects économiques que j'aime beaucoup. Et bah après, je ne sais pas. Soit je passerai un concours du barreau, un concours de la magistrature aussi, ou soit j'irai en cabinet en fait de consulting et je conseillerai les gens, ou je ferai du trading. Je ne sais pas. En fait, c'est très très riche, ouais. Les études supérieures, et c'est difficile encore maintenant de vous dire dans quoi je veux me lancer. Après, je sais que je retourne toujours au sport, que ce soit associativement, personnellement ou dans mes cours. Donc j'aimerais beaucoup travailler par exemple sur des dossiers qui concernent des financements de clubs de sport, ou que ce soit gérer les contrats des sportifs, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses encore, c'est assez confus pour moi, mais ça va prendre son petit temps et tout ira bien.
Et c'est ok, il y a le temps en soi. Faut pas se mettre, c'est vrai qu'il faut le dire des fois, faut pas se mettre une pression sur les études.
Oui.
On a toujours la possibilité de changer, se réorienter,
c'est vrai.
De tester un truc, de pas aimer, de l'aimer et de suivre. Et
absolument.
Du coup, pas de stress. Et toi, Lona, as-tu des autres... projets, des choses que tu aimerais nous partager?
Ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai fait un master qui s'intitule Chargé d'études économiques et sociales. Et donc, là, je suis en doctorat, c'est-à-dire qu'à la fin de mon doctorat, on va dire qu'il me reste à peu près 1 mois et demi, si tout va bien. À la fin de mon doctorat, je pourrais soit être chargé d'études, soit être sociologue. C'est à peu près le même travail, honnêtement. C'est-à-dire que je peux me faire engager par des administrations publiques ou par des entreprises privées. Je peux aussi faire du consulting pour répondre à des questions économiques dans la société française, mais aussi des questions sociales. C'est hyper vaste et franchement, quand on n'est pas dans le milieu, je comprends que ça soit un peu flou. Mais du coup, c'est un peu à ça que je me destine. Moi, j'aimerais bien travailler dans des ONG, en fait. Il y a pas mal de sociologues qui travaillent dans des ONG, par exemple, des ONG qui s'intéressent au sort des migrants en France, etc. Je pense que ce serait ça mon vrai objectif. Mais après, je ne me mets pas trop la pression non plus. Enfin, je me dis, déjà, me concentrer sur ma thèse, c'est pas mal. Et je verrai bien ce que je fais de tout ce bagage quand j'aurai terminé.
Alors, déjà, je vous remercie toutes les deux pour vos prises de parole. Évidemment, vous avez encore l'avenir devant vous. Hein. Enfin, Lona, si ça te rassure, 25 ans, franchement, moi, je trouve pas ça très vieux. T'as encore plein de possibilités devant toi.
Je me rapproche lentement de la trentaine.
Oh, c'est rien, la trentaine.
Et vous avez quand même toutes les deux déjà des super beaux parcours et plein de rêves. Et je vous remercie vraiment de nous donner de l'espoir sur ça. C'est ultra important de le transmettre aux lycéens. Et je vous remercie pour toutes vos réponses à nos questions aujourd'hui. Donc, on va pouvoir lancer les au revoir de l'émission pour cette fois-ci.
Alors, on finira sur une petite touche musicale de Baile Inolvidable de Bad Bunny.
Merci, bisous.
Bisous, au revoir.
Au revoir, merci.
Merci.
En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y fuiste tú.
Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Yeah.